7h25 minutes. La ville de Montréal a procédé depuis les dernières semaines, vous le savez, à des aménagements. On a fermé des rues, on a aménagé des pistes cyclables additionnelles, on a enlevé des espaces de stationnement. Et tout ça, bien sûr, dans le cadre des mesures pour essayer de permettre aux gens de circuler, de retrouver de l'espace, toujours avec en tête cette distanciation physique nécessaire, donc, en ce contexte de COVID. Je vais faire le point un peu pour voir comment ça se passe. Quel est le bilan qui n'est pas complet, mais quand même à ce stade-ci, avec Eric Allen Caldwell, qui est le responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. Monsieur Caldwell, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Monsieur Arcan, en commençant, est-ce que vous me permettez une petite parenthèse à propos de la situation sur Desquerry?
Oui, allez-y.
Oui, non, je voulais juste souligner dans des situations difficiles là, comme ça, le travail de toutes les équipes qui sont mobilisées à la ville, entre autres c'est le fameux CGMU, Centre de gestion de la mobilité urbaine, qui est en contact avec les chroniqueurs circulation comme M. Brière et l'ensemble des opérations pour coordonner le tout. On sait que c'est une situation pas facile, la coordination de tous les services, mais je veux quand même juste profiter, parce que c'est aussi mon rôle à la ville, de remercier les équipes en place au CGMU qui sont là-dessus et à pied d'œuvre.
OK. C'est fait. Parlons de ce dossier qui nous intéresse. D'abord, est-ce que vous avez un premier bilan, là? Il y a combien de pistes cyclables qui ont été ajoutées? Combien de rues ont été fermées, là, pour permettre, par exemple, l'installation de terrasses dans les rues? Est-ce qu'on a un portrait à ce stade-ci?
Bon. On est passé à travers deux phases. On se rappelle au début de la pandémie, lorsqu'il y avait les commerces jugés essentiels seulement qui étaient ouverts, il y a eu une multiplication des corridors sanitaires. À l'époque, c'est un contexte avant qu'on porte le masque, avant, c'était au début de la pandémie, où la priorité était de respecter le 2 mètres, y inclus dans la rue, inclus sur les trottoirs. Et là, devant les commerces essentiels qui étaient les seuls ouverts, il fallait mettre des corridors sanitaires pour laisser de la place aux piétons. Ces corridors sanitaires-là ont été, pour la plupart, démantelés. Et là, on est rentré dans une autre phase où le but, c'était de laisser de la place pour les activités courantes avec la réouverture de beaucoup de nos institutions puis l'ensemble de nos commerces. Alors là, on est passé là où les sociétés de développement commercial ont voulu travailler avec la ville pour fermer des rues commerciales pour en faire des rues piétonnes, pour laisser de l'espace aux commerçants et aux citoyens et aux acheteurs. Et il y a aussi, parallèlement à ça, on a vu à Montréal une augmentation de la circulation cycliste. Je dis on l'a vu à Montréal, mais on l'a vu partout au monde, là, où bien qu'il y ait une diminution du transport des gens dans le transport en commun, il y a une diminution du trafic routier, il y a une augmentation du trafic cycliste. Donc,
mais
on a fait des pistes cyclables temporaires.
Ouais, mais il y a une parenthèse, le Bixi est moins utilisé, par exemple.
Bixi est moins utilisé, et d'ailleurs, je dirais nos pistes cyclables au centre-ville ont quand même une baisse de fréquentation. Il y a une diminution de l'activité vraiment dans le l'hyper-centre-ville, là, et le Vieux-Montréal, parce qu'il y a une diminution de l'activité dans les bureaux et une diminution du tourisme. Mais dès qu'on sort un peu du centre-ville de Montréal, on voit dans nos quartiers résidentiels, on voit une augmentation du trafic à vélo.
Okay,
mais il y a une reprise de Bixi, là.
OK, mais j'ai une question à vous poser. Ouais. Quand vous dites on voit, là, comment vous le mesurez, là? Parce que on peut avoir une perception, là, mais concrètement, comment une ville, comment l'arrondissement mesure ça?
Ben, avec des compteurs vélos installés, on donne des contrats à des firmes qui installent des compteurs vélos. C'est une technologie avec un fil là, qui passe dans le sol et qui, lorsqu'il y a deux roues qui passent, ben ça marque un passage. Donc, c'est des comptages faits en permanence sur notre réseau cyclable. Il n'y en a pas partout, il faut payer pour ces compteurs-là, mais c'est comme ça que ça nous permet de suivre la situation.
OK, donc ça veut dire, mais il y en a combien de compteurs là, ou combien de pistes qui font l'objet là, d'un calcul comme celui-là?
Ben, on avait déjà, dans la ville de Montréal, des compteurs vélos d'installer. On en a rajouté, j'ai pas le nombre exact de compteurs vélos pour vous ce matin, M. Arcan, mais on a rajouté des compteurs vélos cette année pour vraiment bien comprendre la situation pendant la pandémie avec l'évolution des comportements. Et ce qu'on voit, c'est là où on a fait des aménagements supplémentaires, c'est-à-dire là où il y avait déjà des aménagements cyclables, des bandes cyclables, où on a élargi, où on a laissé plus de place aux vélos parce qu'on anticipait une hausse de la circulation. Mais on remarque qu'effectivement, à des endroits où on a des comparables avec l'an passé, il y a une augmentation de 36 % de la circulation vélo.
OK. Il y a combien de places de stationnement qui ont été enlevées?
Bon, il y a plusieurs dossiers. Là, on se rappelle, là, on parle ce matin des aménagements vélo faits dans le contexte de la pandémie, mais on s'est parlé l'an passé quand on a annoncé notre réseau express vélo, Saint-Denis, Bellechasse, où là, c'est la programmation régulière, si vous le permettez, c'est des aménagements qui sont prévus depuis un an et demi, deux ans. Et là, il y a plusieurs places de stationnement qui ont été enlevées. À d'autres endroits comme Saint-Denis, on a plutôt...
OK, mais M. Candouet, je veux juste savoir combien de places de stationnement ont été enlevées à Montréal, mettons, depuis le début de l'été.
Ben, j'ai pas la compilation exacte parce que c'est dynamique, mais je peux vous dire. Par exemple, pour le Rêve Bellechasse, on le sait, il y a 800 places de stationnement. Il y en a quelques centaines pour Saint-Denis. Il y en a beaucoup moins parce que là, on a privilégié le retrait d'une voie de la circulation. Avec des aménagements comme la piste sur Rachel, il y en a plus d'une centaine. Donc, j'ai pas la compilation exact. Ce qu'on remarque, par contre, je dois le dire, c'est qu'il y a une diminution de la circulation automobile qu'on constate de 20 % et il y a une capacité d'absorption de notre réseau de stationnement dans les rues perpendiculaires, parallèles, qui est au rendez-vous. Là.
Bien, je ne sais pas sur quelle planète vous êtes parce que c'est pas tout à fait ça qu'on perçoit. D'abord, que vous me dites qu'il y a moins de gens qui se promènent en auto, c'est sûr. Parce qu'on a tout fait pour qu'il y ait moins de gens en auto. Moi, je ne parle pas là, de gens qui viennent de l'extérieur. Moi, je vous parle des témoignages que je reçois de gens qui vivent dans des arrondissements, des gens à qui on a enlevé des places de stationnement, des gens plus âgés, des gens handicapés. Quand vous me dites sur les rues, parfois sur ces rues-là, il y a des travaux. Parfois, il faut qu'ils s'en aillent pratiquement à 1,5 km de chez eux. 1 km. C'est malheureusement pas des cyclistes parce qu'ils sont un peu plus âgés ou handicapés. On dirait que la ville fixe une clientèle, les gens qui font du vélo, puis les autres, arrangez-vous.
Monsieur Arcand, je ne dis pas que le retrait des places de stationnement pour faire de la place, soit des voies réservées pour autobus, soit des pistes cyclables, soit pour des élargissements de trottoirs, soit pour le dégagement de 5 mètres aux intersections. On sait que ça a un effet sur le retrait des places de stationnement. Quand on dégage avec des saillies de trottoirs les intersections pour laisser plus de place aux piétons, il y a un effet sur le stationnement. Je ne dis pas que ça n'a aucun effet. Je ne dis pas que ça amène pas un changement des habitudes. Effectivement, il faut parfois chercher un peu plus longtemps, se stationner un peu plus loin. Mais ce que je dis, c'est que là, il n'y a pas de magie à faire. Là. À Montréal, on a eu une croissance du parc automobile constante, une croissance de la congestion constante. On sait que si on veut se sortir la tête de l'eau, il faut faire de la place à la mobilité durable pour trouver des alternatives, justement. Sans ça, on fait juste empirer notre situation à terme. Je ne dis pas que la situation idéale, bien entendu, lorsqu'il y a une réallocation de l'espace de la rue pour un autre usage, ben on en perd, il y a un usage qui en perd un peu. Effectivement, il y a des pertes de stationnement à Montréal, mais il y a une augmentation de l'utilisation de ces emprises de mobilité durable, que ce soit les pistes cyclables, les voies réservées. Et on a ce défi-là, là, au sortir de la pandémie, là, d'assurer un retour de la population dans le transport en commun. Parce qu'on sait tous que si à Montréal, si les gens qui prennent le transport en commun l'abandonnent, on va se retrouver avec des problèmes de congestion encore pire.
Non, mais c'est parce que là, vous avez comme une vision, c'est comme si les gens... Je parle toujours des Montréalais, je parle des citoyens de Montréal. Là. C'est comme si les gens voulaient toujours se déplacer en auto. C'est parce que des fois, les gens ont des enfants, parce que des fois, ils font des achats, ils font des courses. Ils sont pas toujours avec leur auto. Ils veulent juste avoir un coin pour stationner. La vision que vous avez, c'est toujours en fonction des gens qui font du vélo. Puis j'en fais du vélo, mais j'ai une auto, puis je m'en sers de moins en moins. Mais en même temps, je me dis juste, c'est pas cool pour les citoyens qui... pour toutes sortes de raisons, peuvent pas nécessairement modifier leurs habitudes. Il faut peut-être que la ville aussi tienne compte de ces citoyens-là qui payent Christie des taxes.
Ben oui, mais comme vous le dites, ces citoyens-là, souvent, et c'est l'évolution qu'on voit à Montréal, continuent à utiliser leur auto. Je suis un de ces citoyens-là, mais comme vous aussi, on fait du vélo, on fait du transport en commun, on utilise de moins en moins notre auto. Pour qu'on utilise de moins en moins notre auto, il faut rendre nos autres déplacements plus sécuritaires, plus confortables, plus efficaces. Là. Donc, on n'a pas le choix d'avancer dans une progression de l'offre de mobilité durable pour les vélos, pour les piétons, pour le transport en commun. Okay, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
Non, je comprends, M. Caldwell.
On est obligé de réallouer une partie de l'espace.
Là. OK, mais je vais vous donner des exemples, puis je les ai testés. Je suis allé me promener dans le bout du marché Atwater. C'est un cauchemar. Puis je me mets à la place des gens qui sont là, là, avec les travaux, avec les fermetures, avec les aménagements. J'ai fait la même chose sur, dans le coin de Jean Talon, le marché Jean Talon. Je suis allé me promener sur Bellechasse et tout ça. Je vous parle, je suis allé là en vélo. Puis là, j'observais, puis je me disais, là, quand les gens vont vouloir, par exemple, cet automne, faire des achats importants de fruits, de légumes, les tomates italiennes pour faire des conserves, l'aménagement fait tout pour me décourager d'aller là. Puis je me mets à leur place, là, je serais découragé pour la fin de saison.
Et M. Arca, c'est, il reste à Montréal une place importante à l'auto. Il reste à Montréal beaucoup de places de stationnement. Il faut apprendre aussi à se réapproprier des espaces de stationnement moins utilisés. Par exemple, un stationnement souterrain au marché Jean Talon. Mais bien entendu, il faut garder de l'espace pour ces besoins-là, pour ces familles-là qui ont besoin à certains moments, comme vous le dites, de prendre l'auto. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas figer la ville autour de l'utilisation actuelle qu'on avait de l'auto parce que sans ça, parle, regardez, on va se priver de faire progresser les autres transports.
Quand vous déplacez des lignes de transport d'autobus, des lignes d'autobus, des arrêts d'autobus, ça a des impacts pour les gens, ça aussi.
Oui, absolument. Et effectivement, c'est un des grands défis qu'on a à Montréal, justement, de faire la conciliation des différents besoins. Un de ceux-là est l'autobus. Comme vous le savez, on croit beaucoup à l'autobus. On a réinvesti dans pour acheter 300 autobus. On veut une progression de l'offre d'autobus à Montréal. On veut rendre l'autobus sécuritaire dans un contexte okay. COVID et post-COVID. Donc, ça fait partie des défis qu'on a. Et il y a eu des réajustements là-dessus cet été. Je vous le cacherai pas. Mais oui, il faut garder les lignes d'autobus pour les citoyens le plus possible. Je suis d'accord avec vous.
OK. Deux, trois questions en terminant. Vous avez publié un rapport cet été, un premier bilan, là, en disant que la fermeture sur Mont-Royal, avenue du Parc là, jusqu'à Folhomme, la rue Mont-Royal accueillait en moyenne plus de 15 000 piétons par jour. Un, comment vous les avez comptés? Avez-vous des compteurs de piétons? Puis deux, c'est quoi la différence par rapport à l'an passé?
Bon, oui, on a des compteurs de piétons, c'est des logiciels avec des caméras qui captent le nombre de piétons. On n'a pas le comparatif avec des données pour l'an passé dans une situation normale. J'aimerais vous en donner, malheureusement, j'en ai pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une rue commerciale traditionnelle à Montréal à environ 8000 piétons par jour, là, des comparables.
OK, mais là, c'est un estimé que vous faites, là.
Ben, les comptages piétons qu'on a pris cette année, non. Là.
Non, mais c'est parce que 15 000, vous savez pas, vous me dites que vous n'avez pas
ça,
le chiffre pour l'an passé.
Ça, c'est pas un estimé. Le 15 000, c'est pas un estimé.
Non, mais vous
c'est
me dites
comptages
que
qui sont faits.
Pour l'an passé, vous savez pas combien il y avait de piétons.
Non, et c'est une des améliorations qu'on va avoir à Montréal. L'investissement dont je vous parlais pour des compteurs piétons, des compteurs cyclistes, des compteurs véhiculaires. On investit beaucoup de compteurs véhiculaires au centre-ville. Dans la collecte de données Montréal, on prend un virage justement pour mieux documenter. Okay. C'est un des constats qu'on fait. Il nous manque des données. Je vous le cacherai pas.
OK, parfait. Consultation pré-budgétaire, là où il y a un sondage en ligne. Mario Girard dans la presse dit ce matin qu'on peut participer plusieurs fois, qu'on peut être... quelqu'un de l'extérieur de Montréal puisse participer, qu'autrement dit, votre affaire est assez bidon.
Écoutez, je vais prendre connaissance de l'article de M. Girard. Je ne suis pas en charge de cette consultation prébudgétaire. C'est la commission des finances notre collègue M. Deschamps qui préside ces consultations-là. Écoutez, il faudrait que je prenne connaissance.
Mais ça se peut-tu que si je ne suis pas de Montréal, je peux participer en ligne une fois, deux fois, dix fois, ça me tente?
Désolé, M. Arcan, j'ai pas une réponse précise à vous donner là-dessus. Là, j'aime autant pas vous
Parfait.
Répondre.
Merci. Bonne journée, M. Caldwell. Au revoir. Éric Allen Caldwell, qui est responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal.